La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Communautarisme. La pitoyable polémique estivale du Burkini aura offert une nouvelle occasion de voir s'affoler les statistiques d'occurrence de ce mot dans l'espace public. Ainsi, le fait que quelques femmes décident de revêtir cet accoutrement pour aller à la plage serait, nous explique plus ou moins doctement de nombreux médias et responsables politiques, la preuve du communautarisme qui vient, ou dit autrement, de l'inexorable progression de ce modèle anglo-saxon, comme on dit seulement en français, soit dit en passant, un référentiel qui viendrait menacer notre sacro-saint modèle républicain. Comment dites-vous ? Communautarisme ? Non, à vrai dire, le mot n'existe même pas dans la langue anglaise. Alors de quoi s'agit-il ? De quoi communautarisme est-il le nom ? Au terme d'une enquête entamée il y a 10 ans, le sociologue Fabrice Dume-Sonzoni est en mesure de retracer la trajectoire à succès de ce mot poison du débat public, assurément l'une des prophéties autoréalisantes les plus accomplies de notre époque, capable d'inventer des mots sans les choses. Fabrice Dume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes chercheur à l'ISCRA, vous êtes enseignant-chercheur à Paris Diderot, et vous publiez ces jours-ci chez Démopolis, Communautarisme, enquête sur une chimère du nationalisme français. Ce livre, en fait, est la deuxième version d'une enquête que vous avez commencé à mener en 2004-2005, sur laquelle vous êtes revenu, parce que sans doute au début, vous ne vous doutiez pas que ce mot allait connaître ce succès. Quand vous avez commencé à travailler, il était encore relativement récent, cet emploi du mot communautarisme. Je voudrais qu'on commence par le début qui, en fait, est une commande. On vous a commandé une enquête dont les termes vous ont intrigué et vous ont amené à vous interroger sur ce terme communautarisme, Fabrice Dume.
Oui, en effet, mais je pratique plutôt une sociologie publique, c'est-à-dire d'aller travailler avec des équipes, avec des professionnels, avec des gens pour essayer d'accompagner un processus d'émergence de critiques, hein, de contre-public au fond, notamment de critiques des institutions et de leur fonctionnement. Et pour le coup, là, je travaillais sur une enquête qui portait autour de la question du racisme et de l'antisémitisme à l'école. On était au début des années 2000 et les préoccupations du ministère de l'Éducation nationale étaient l'émergence de discours ou d'actes supposés d'antisémitisme notamment, et autour d'un imaginaire des bandes, des groupes communautaires qui s'affrontaient. Voilà. Donc ça, c'était un peu la préoccupation de l'institution scolaire. Et la commande, effectivement, d'une enquête portait sur à peu près racisme, antisémitisme et communautarisme. Voilà. Alors, un peu intriguant pour le sociologue, c'est-à-dire autant le racisme, la sociologie du racisme, on connaît bien, hein, la question de l'antisémitisme, on connaît bien aussi, mais il y a déjà une discussion théorique sur faut-il distinguer ou pas des racismes, le racisme, l'antisémitisme, voilà, y a-t-il nécessité de les désarticuler et les réarticuler.
En tous les cas, c'est des réalités sociales, voilà, que vous aviez déjà eu à connaître, sur lesquelles vous aviez travaillé, qui renvoient à des travaux, en tous les cas, de collègues sociologues. Il s'agit bien de réalités sociales. En revanche, le troisième thème, communautarisme, il vous a posé immédiatement davantage de problèmes.
Absolument, mais autant la réalité sociale du racisme et de l'antisémitisme existait en général, mais quand même, au début des années 2000, il n'y a à peu près aucune enquête sociologique dans l'école. C'est-à-dire, on est sur des thèmes qui existent, mais pour lesquels nous ne savons pas, en réalité, à ce moment-là, ce qui se passe dans l'école. Donc, première enquête, j'ai envie de dire, à peu près, sur cette problématique-là. Et du coup, dans cette commande autour du terme communautarisme, il y avait déjà un filtre assez problématique qui supposait que le racisme venait, au fond, d'affrontements communautaires, donc, en réalité, des publics de l'école, des élèves. Et quand on regarde la sociologie du racisme, on peut quand même plutôt s'interroger sur la manière dont l'institution scolaire fonctionne. Alors, du coup, effectivement, face à cette commande un petit peu étonnante, j'ai proposé de travailler sur ce mot-là et d'essayer de comprendre ses significations, ce qui m'a amené dans une enquête parallèle à la question de l'enquête de terrain sur le racisme à l'école. Une enquête parallèle pour essayer de comprendre comment ce mot a émergé, comment il a évolué dans le temps.
Alors, émergence, je le disais, récente. Au fond, on trouve très très peu d'occurrence du mot communautarisme dans les publications en langue française avant les années 90. Ça n'existe quasiment pas et ça va démarrer, mais ça va démarrer très fort et très vite.
Ça n'existe quasiment pas au début des années 80. Le mot apparaît ici ou là, il y a quelques personnes qui l'utilisent. Et alors j'ai travaillé dans les médias, et ceux qui l'utilisent dans les médias, dans la presse à ce moment-là, c'est un certain nombre d'intellectuels. Voilà. Donc c'est un discours, j'ai envie de dire, qui n'est pas encore un discours journalistique, c'est un discours d'intellectuel, et il va devenir un discours journalistique en même temps qu'effectivement il va, à partir des années 90, progresser de manière considérable.
Donc au départ, c'est ni un discours de chercheur, ni un discours de journaliste, mais un discours intermédiaire, en quelque sorte on pourrait dire, d'intellectuel qui emploie ce mot pour désigner des choses sur lesquelles ils n'ont pas spécialement mené d'enquête, mais sur lesquelles ils ont des choses à dire.
Sur lesquels ils ont des choses à dire, j'aurais dit pour lesquels ils ont en tout cas une certaine représentation. Et mon souci, c'était d'essayer de comprendre quelle est cette représentation. C'est-à-dire, au fond, derrière ce mot, quel est le regard qui est porté sur la réalité de la société française, et en quoi l'émergence de ce mot signale des transformations sociopolitiques, des transformations dans la représentation des problèmes publics et de la situation finalement politique de la France.
Ce mot, en fait, va être une sorte de prisme, un opérateur, et un prisme qui va avoir des effets en retour sur ce monde social qu'il est censé refléter. On va revenir sur toute cette enquête. Je voudrais quand même, parce que des auditeurs doivent se poser la question, vous la posez directement, mais ça veut dire au fond, communautarisme, pour vous, c'est un concept, c'est un mot, un concept, ça serait peut-être déjà lui accorder beaucoup d'importance, en tous les cas, un mot qui vise à désigner quelque chose avant d'être une réalité sociale qui serait désignée par ce mot. C'est-à-dire que le communautarisme, on n'en trouve pas trace, ça n'existe pas. Ce que certains désignent par communautarisme, eh bien, on a beaucoup de mal à en trouver des exemples mis en évidence dans des travaux de chercheurs.
Dans les travaux de chercheurs, d'une part, quand on regarde la littérature qui a émergé quand même au milieu des années 2000, hein, il y a eu un certain nombre de livres qui ont été publiés sur ça, à peu près tout le monde s'accorde pour dire que là, c'est un fantasme, voilà, enfin, c'est un mot qui ne désigne pas une réalité concrète. Néanmoins, les auteurs mêmes qui disent ça se sentent quasi obligés de supposer une question substantielle qui est derrière. Alors, j'avais traité cette question-là en comparant la presse nationale et la presse locale, parce que ce qui était tout à fait flagrant, c'est que ce discours était lié à une représentation de la nation. Donc, plutôt lié à l'imaginaire national. Hein. Ce mot parle de l'imaginaire national. Et la question que je m'étais posée, c'est est-ce que, si on descend à une échelle, on va dire locale, est-ce que ce mot peut avoir d'autres usages qu'un grand discours de représentation de la nation ? Est-ce qu'il est parfois utilisé ou pas pour qualifier des événements, des pratiques sociales, etc. La réponse, c'est à peu près non. C'est-à-dire que c'est un discours qui renvoie toujours à une représentation imaginaire de la nation.
À l'échelle de la nation. Alors, l'autre usage qui est fait très très rapidement de ce mot, c'est un mot épouvantail, on pourrait dire au fond. Un mot qui est censé renvoyer à une réalité qui serait extérieure à l'histoire de la nation française et qui serait davantage associée à l'histoire d'autres nations, d'autres pays qui, elles, seraient communautaristes. Et évidemment, les États-Unis sont convoqués au premier chef comme exemple numéro un du communautarisme. Alors, on sait qu'aux États-Unis, les communautés sont des choses extrêmement importantes. Très récemment, dans cette émission, Julien Talpin est venu parler de son travail sur les formes de mobilisation des communautés à Los Angeles en particulier. Mais on peinerait à trouver ce qu'on entend en France par communautarisme dans la réalité politique anglo-saxonne, qu'elle soit américaine ou britannique, Fabrice Dhume.
Oui, absolument. Le terme de communauté tel qu'il est pensé dans des pays d'Amérique du Nord est à peu près incompréhensible pour les Français.
D'ailleurs, il n'existe pas. Je le disais dans l'introduction de cette émission, il n'y a pas l'équivalent. On ne peut pas traduire, on ne peut pas dire communautarisme. Ça ne veut rien dire.
Il y a d'ailleurs des ruses tout à fait étonnantes des traducteurs automatiques, c'est-à-dire ou des dictionnaires en ligne. C'est quand on leur demande communautarisme et quand on demande de le traduire, ils nous renvoient aux politiques d'intégration et aux problèmes d'intégration, donc à la française, sous-entendu. C'est vraiment un mot qui parle de l'imaginaire français, qui n'a effectivement pas d'autre réalité. Alors, la question des États-Unis ou de l'Amérique, plutôt un peu fantasmatique, hein, l'Amérique est centrale, mais elle est articulée, et plus centrale encore est la question de l'islam. En réalité, si on prend la trajectoire de ce mot, il y a trois grands thèmes qui structurent un petit peu ce discours. Il y a d'une part l'islam, la montée finalement d'un discours de peur de l'islam, et puis de haine de l'islam, où communautarisme représenterait finalement, pour le dire assez vite, des hordes de barbares menaçant la société française. On a un deuxième élément qui est effectivement la figure de l'Amérique, avec à la fois une critique de l'hégémonie américaine hein, dans la mondialisation culturelle, et à la fois la question des dites communautés, avec la dénonciation d'un multiculturalisme qui serait opposé à l'intégration à la française. Et du coup, cette double articulation va se déplacer avec un troisième thème qui émerge très fortement, c'est que ce mot communautarisme va devenir une accusation politique qui est tournée contre la gauche, à qui on reproche depuis les années 80 une espèce de multiculturalisme, de volonté multiculturaliste américaine de vouloir importer ce modèle-là et à qui on va reprocher de plus en plus une espèce de stratégie un peu pas claire vis-à-vis des musulmans, de la reconnaissance, etc. Ce qui va se traduire dans le discours de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche aujourd'hui, qu'on parle d'islamo-gauchisme, d'accord, en accusant finalement cette gauche de faire le jeu de l'islamisme au nom d'une espèce de modèle culturaliste.
Je voudrais qu'on revienne sur ce lien avec les États-Unis, un certain nombre de confusions, de malentendus. Parce qu'il y a un élément qui existe dans le débat de la philosophie politique américaine qu'on n'appelle pas communautarisme mais communautarianisme. Hein. Donc c'est le travail de Michael Sandel en particulier là-dessus qui ne renvoie pas du tout à la même chose que ce qu'on désigne par communautarisme. Et pourtant, un certain nombre d'importateurs de ce mot ont partie liée avec cette tradition philosophique américaine. Je pense à Laurent Bouvet qui a écrit un livre sur le communautarisme et ses problèmes et qui a participé du mouvement que vous décrivez bien d'un certain nombre d'intellectuels avec sans doute au premier plan Pierre-André Taguieff mais aussi Michel Tribala par exemple qui ont inscrit à l'agenda ce mot comme une pseudo-importation américaine, enfin qui ont brouillé un petit peu la généalogie de ce concept, Fabrice Dume.
Absolument, il y a une fiction autour de ça, hein, d'une espèce d'origine américaine de ce mot, ce qui n'est prouvable nulle part, et en tout cas ce qu'on voit bien émerger, c'est-à-dire ce mot n'a pas d'équivalent effectivement dans la langue anglaise d'abord, et il y a un vrai problème de traduction. Alors vous avez cité un certain nombre d'auteurs qui là sont des fervents défenseurs de ce modèle menaçant, soi-disant modèle intégrationniste français. Par contre, si on regarde un peu la littérature qu'il y a autour du communautarianisme, ou la pensée communautarienne, comme on le traduirait plus simplement, on pourrait dire, il y a un vrai problème de traduction, c'est-à-dire que le mot communautarisme est pris dès lors qu'on resitue cette pensée communautarienne dans la langue française. Le problème de traduction, c'est que communautarisme en France veut dire en fait tout à fait autre chose. Donc il nous rend incapables d'entendre ce que défend la pensée communautarienne.
D'accord, alors d'où l'intérêt de votre enquête, qui est une enquête de clarification, au fond, on peut le voir comme ça, où vous retracez cette histoire intellectuelle, les usages de ce mot, le rôle assez déterminant de ces acteurs intellectuels dans un premier temps, et puis le relais médiatique que vous regardez de près avec une observation des occurrences du mot, de la manière dont il finit par triompher, et des usages au fond qu'il lui incombe désormais dans l'espace public. Je prenais l'exemple au début de cette émission de l'affaire de l'été du Burkini, qui aura été finalement le dernier en date des épisodes qui permet de tenir ce discours du communautarisme qui vient comme une menace fantôme en quelque sorte. Vous n'avez pas dû être surpris à la lecture des journaux cet été. Tout ça, c'était finalement la énième version d'un feuilleton qui se joue depuis, allez, on pourrait dire depuis le début de l'affaire du voile en 1989, Fabrice Dume.
L'affaire du voile, pas tout à fait, parce que si on regarde vraiment l'histoire du terme communautariste, c'est très frappant de voir qu'en 1989, le terme communautariste n'est pas du tout utilisé pour décrire cette situation, et donc ne s'applique pas à la controverse ou la polémique qui est en train d'être née. Par contre, ça va devenir un instrument très efficace pour requalifier un certain nombre de choses, et là, c'est plutôt à partir du milieu des années 2000, ou début des années 2000, que ça va devenir finalement une question. Lors de la loi de 2004, ou la préparation de la loi de 2004 contre le voile à l'école, hein, de 2003-2004, c'est vraiment pour le coup le discours du communautariste qui est utilisé, alors qu'il n'existe pas en 89. Donc on voit bien du point de vue du rapport au fait que c'est un mot qui requalifie une réalité sociale mais qui n'accompagne pas en soi l'émergence de nouvelles questions ou de nouveaux problèmes. Il y a une déconnexion des deux. Par contre, il devient un instrument politique très très important pour essayer de diffuser dans l'espace public une représentation fantasmée de l'imaginaire français, d'une part, d'autre part, un sentiment de peur que ce modèle-là, auquel nous serions attachés, est menacé par un certain nombre de sources dont on a parlé, hein, mais qui sont toujours en même temps relativement diffuses, relativement invisibles dans leur forme réelle. Et cette invisibilité, elle est très intéressante pour ça, parce qu'au fond, ça ne renvoie pas à des faits précis. Et c'est ça la puissance, au fond, par laquelle opère ce mot, c'est qu'il parle toujours quelque chose qui est relativement fumeux, en termes de pratique, mais qui, du coup, apparaît d'autant plus menaçant. Et là, on voit bien, on commence à déceler vraiment une grille de lecture assez classique, au fond, du discours des renseignements, c'est-à-dire qu'il y aurait d'autant plus de menaces que les pratiques ne sont pas visibles.
Alors, ça aboutit à des contradictions dans les termes qui sont assez flagrantes, c'est-à-dire que, d'un côté, quand l'affaire du burkini se déclare, quand on montre des femmes en photo sur les plages portant un burkini, on va crier au communautarisme, et dans le même temps, on va reprocher la faiblesse des communautés, en l'occurrence de la communauté musulmane, avec des guillemets, hein, dont Olivier Roy rappelait encore récemment qu'il ne savait pas trop ce que c'était, sa faiblesse à réagir face à de tels agissements. Donc on dit une chose et son contraire dans le même temps.
Oui, il y a vraiment une injonction contradictoire et paradoxale qui s'exprime en particulier en direction des musulmans ou des gens qu'on voit comme ou qu'on pense comme musulmans, à qui on demande de s'exprimer au nom d'une communauté pour condamner des actes de terrorisme, et en même temps à qui on reproche sans cesse d'être une communauté ou de vouloir le communautarisme. Donc vraiment une contradiction majeure. Mais ça montre bien à un moment donné que ce mot-là, il est d'abord un opérateur dans le langage politique, d'une manière d'essayer de dessiner un rapport de force dans laquelle on voit bien que l'islam sert à justifier à un moment donné un certain nombre de choses, bien plus qu'on ne s'intéresse, jamais au fond à la manière dont les musulmans vivent, pensent, etc. C'est assez typique sur la question du voile, c'est-à-dire on parle au nom de l'islam, on parle de l'islam au nom des musulmans, jamais on demande aux gens comment ils vivent et comment ils voient le monde, quoi.
Bah, c'est-à-dire que quand le New York Times prend la peine de le faire en posant des questions à des femmes musulmanes en France, le Premier ministre français réagit et s'en prend à ce grand journal américain. Alors, autre question, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire que l'usage du mot communautarisme n'a pas renvoyé toujours exclusivement, parce que c'est le cas aujourd'hui, à l'islam. Il a pu aussi renvoyer à d'autres types de communautés, notamment de communautés homosexuelles. De ce point de vue-là, les choses ont évolué. C'est ce que note Éric Fassin dans la préface qu'il fait à votre livre, là où un autre ennemi, en quelque sorte, pouvait être désigné au moment du débat sur le Pax, à la fin des années 90. Et puis, eh bien, on voit que les choses ont vraiment changé à la faveur de ce grand débat national autour de la loi pour le mariage pour tous.
Si on fait la trajectoire du mot lui-même, d'abord, il va se détacher du terme communautarisation. Et qui, apparemment, on pourrait se dire spontanément, on est dans le même univers intellectuel. En réalité, pas du tout. C'est-à-dire que le terme communautarisation, tel qu'il est utilisé dans les années 80, il est utilisé principalement pour parler de l'Europe, hein, de la construction européenne.
De la communauté européenne.
Voilà. Ouais, de la communauté européenne. Et c'est un mot qui, dans cette époque-là, a plutôt un sens un peu positif. C'est-à-dire, on réclame plus de communautarisation au sens de mise en commun et gestion en commun d'un certain nombre de biens communs, de biens collectifs, etc.
C'est un usage qu'on retrouve un peu en Belgique aussi, d'ailleurs. État complexe avec des composantes géographiques différentes et linguistiques différentes.
En Belgique ou dans d'autres situations, mais y compris en Belgique, le terme va migrer et va devenir plutôt négatif sous l'influence de l'émergence de ce nouveau mot communautarisme. Et lui, il émerge alors en deux temps. Hein, disons que si on regarde un peu la courbe par laquelle le mot s'impose dans le discours de presse, on distingue quand même très clairement une première flambée, si je peux le dire comme ça, du terme dans son usage. C'est après 94, 95, voilà. Et l'autre, c'est autour de 2001. Et en fait, ça correspond, une fois n'est pas coutume, à des choses assez précises en termes d'événements médiatico-politiques. 94-95, c'est l'affaire Khaled Kelkal, du nom de ce jeune homme qui a été tué devant les caméras de télévision par la police et qui était poursuivi pour sa participation aux attentats du métro Saint-Michel à Paris en 1995. 2001, c'est évidemment les attentats du 11 septembre, etc. On comprend bien. C'est-à-dire que c'est ces deux événements qui vont légitimer d'une certaine manière ce mot qui était déjà disponible.
Deux événements du terrorisme, hein, qui surgissent.
Alors, deux éléments.
Chacun à son échelle, mais
deux éléments qui ont en commun de générer un discours politique en France qui est comment des enfants nés en France, qui ont grandi sur les bancs de l'école, qui ont été formés à l'école de la mère patrie, se retournent finalement contre la mère patrie. Et donc c'est un discours qui émerge et qui va légitimer une espèce de schéma que d'autres ont analysé, de l'ennemi intérieur, hein, celui que la France nourrirait de son sein, et qui va se retourner contre elle. C'est ça, en fait, qui constitue le motif principal du terme communautarisme, c'est-à-dire le danger que peut représenter cet imaginaire extérieur qui est importé en France.
Et qui vient, au fond, s'en prendre à la seule communauté qui vaille, c'est-à-dire la communauté nationale.
C'est ça le motif principal, c'est-à-dire ce qu'il s'agit de défendre en appelant à toute force une réaction pour protéger, c'est bien l'imaginaire national. Hein, c'est ça qui est le cœur de ce discours-là. C'est pour ça, au fond, qu'il n'a pas de réalité et qu'il n'a pas besoin de s'appliquer à des faits, à une factualité particulière. Hein. Il est utilisé pour le voile, mais on a dit tout à l'heure que c'est pas le cas au début. Enfin, c'est-à-dire c'est un mot qui requalifie une réalité pour le situer sous l'angle de la menace sur l'imaginaire national.
Je disais tout à l'heure, vous observez ce mot comme un opérateur, le mot communautarisme, et vous avez une réflexion, une analyse que je trouve très intéressante et précise, un parallèle que vous faites au fond entre cette façon d'opérer qu'a le mot communautarisme et la façon d'opérer qu'a le mot race. Et pour ça, vous vous appuyez beaucoup sur les travaux de Guillaumin sur la race, hein, qui est à la fois quelque chose qui n'existe pas du point de vue de la biologie, ça n'a rigoureusement aucun sens scientifique, et pourtant, ça existe comme une réalité sociale construite qui produit des effets, c'est même d'ailleurs un mot qui figure dans la Constitution, pourrait-on ajouter. Donc, à la fois ça n'existe pas, mais ça existe. Sauf que vous faites un parallèle qui vous permet de penser comment ça marche pour le communautarisme, selon des ressorts qui rappellent, au fond, le racisme, Fabrice Dumont.
Oui, mais parallèle, inversé, parce qu'au fond, le communautarisme fonctionne à peu près à l'inverse, c'est-à-dire, dès lors qu'on se penche un peu sérieusement sur cette question, tout le monde s'accorde à écrire, et même les fervents partisans de ce terme, s'accordent à écrire qu'il n'y a là que fantasme, au fond, dans cette affaire, hein, mais pour dire, au fond, oui, non, ça n'existe pas, mais oui, ça existe quand même. Quoi. Mais ça existe factuellement et matériellement. Ça existe et quasiment essentiellement un processus de communautarisme qui menacerait. C'est vraiment lié à la question de la menace, c'est-à-dire que ce que les auteurs qui utilisent le communautarisme, quand bien même ils prennent leur distance critique en dénonçant ou en pointant la part de fantasme dans cette affaire, ils sont absolument convaincus qu'il y a une menace, et c'est au fond c'est ça qu'ils veulent mettre en avant à travers ce discours-là. Donc je trouvais effectivement le parallèle avec Colette Guillaumin tout à fait important, parce que on fonctionne à l'inverse de l'argumentation de Colette Guillaumin concernant la race, ce qui m'amène à dire au fond que communautarisme, c'est un discours raciste, d'une certaine manière, mais à l'heure de l'identité, hein, à l'heure des identités. C'est un mot qui va réutiliser cette figure identitaire de la communauté comme nouvel objet, d'une certaine manière, à dénoncer, comme si la race française, pour le dire comme le disait le général de Gaulle et d'autres à cette époque-là, était profondément menacé.
Alors ce qui est frappant, et vous le releviez à l'instant, c'est que même les promoteurs de l'usage de ce mot de communautarisme, ces intellectuels qui vont faire ce travail d'élaboration du concept, ou tenter de le construire comme un concept, sont les premiers à noter qu'il s'agit d'un fantasme. Au fond, on peut se poser la question de savoir si ça participe pas d'un moment particulier en mettant en relation avec le débat autour des questions d'insécurité, puisque c'est aussi le moment où l'on voit poindre, y compris dans les enquêtes de certains chercheurs en sciences sociales, cette notion qu'on pourrait trouver bizarre de sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que on va dissocier la réalité sociale, c'est-à-dire la réalité matérielle de l'insécurité, par exemple, du sentiment d'insécurité, qui peut n'avoir rien à voir. C'est-à-dire que, d'ailleurs, un certain nombre de travaux ont pu montrer que le vote Front National avait davantage à voir avec cette impression d'insécurité qu'avec une réalité vécue, puisqu'on avait des effets de halo, je pense aux premiers travaux de Nona Maier sur la question en particulier. Donc, au fond, on est dans ce moment où des chercheurs ou des intellectuels vont accepter de prendre au sérieux non pas des réalités sociales ou politiques, mais des fantasmes sociaux ou politiques qui vont devenir des véritables objets au même titre que ces réalités. On peut faire la même analyse s'agissant de communautarisme, Fabrice Dumont ?
Oui, mais c'est la rencontre entre la question du sentiment d'insécurité et le thème de droite, voire d'extrême droite dans cette époque-là, qui est la question de l'identité nationale. Et du coup, c'est ce terme qui condense au fond ce motif du sentiment d'insécurité globale pour l'incarner, si on peut le dire comme ça, dans le thème de l'identité nationale. Ce mot ne nous parle que de ça, c'est-à-dire il nous parle de la menace sur la communauté nationale, sous-entendue selon le modèle français, qui est selon sa spécificité du modèle français, et qui serait menacée par toutes sortes de choses. Alors on disait effectivement dans les thèmes principaux l'islam, la représentation de l'Amérique, le rôle joué par la gauche, mais vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la question, ça peut s'appliquer à la question homosexuelle, ça peut s'appliquer à la question de la parité, au féminisme, à des stratégies féministes, etc. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, il y a à la fois la promotion de ce thème majeur qui est la défense collective de l'identité nationale, internationale contre des menaces un peu diverses et variées et incertaines. Mais ça a des effets très considérables parce qu'au fond, c'est toujours les groupes minorisés ou minoritaires qui font les frais de ce discours-là, qui sont la cible en réalité de cela. C'est-à-dire qu'on cherche à défendre une identité nationale qui, au fond, représente surtout la manière dont le groupe dominant, majoritaire pas au sens quantitatif du terme, hein, mais au sens de normatif, hein, celui qui a la capacité d'imposer sa norme comme la normalité, hein, on voit bien que c'est un discours d'un groupe, effectivement, qui est en position dominante et qui essaie de maintenir un peu, de manière hégémonique, son monopole de la définition de la francité et des questions politiques qui sont liées à l'imaginaire national.
Si l'on suit le raisonnement et la proximité de ces concepts de sentiment d'insécurité, la prise au sérieux des fantasmes, leur élaboration finalement à travers des concepts, on se dit que l'étape d'après, ça a été l'invention, et on retrouve là un acteur que on a déjà cité, que vous citiez, de cette notion d'insécurité culturelle, où on a finalement ce sentiment d'insécurité, mais appliqué non pas cette fois à la violence, à des crimes et délits, mais appliqué à quelque chose de très 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 vague, qui renvoie au communautarisme au fond, cette menace diffuse qui pèserait sur une identité et donc sur la communauté nationale. Fabrice Dume.
C'est ça qui m'amène, enfin, mon travail, il cherche à prendre la généalogie de cette question et comment elle s'est imposée dans le discours politique comme une évidence. Et je trouve que le mot communautarisme, à la fois, est un opérateur de cette colonisation de l'espace du discours public et est en même temps un révélateur très très important de ce déplacement-là. Comment des années 80 aux années 2010, 2015, 2020, ce thème de l'insécurité qui va devenir l'insécurité culturelle est devenu un thème apparemment évident. Et je pense qu'effectivement le terme communautarisme a été l'opérateur ou l'un des opérateurs tout à fait clés de cela. D'autant plus clé que c'est un mot qui a permis d'articuler un certain nombre de schémas intellectuels divers et variés. Voilà, c'est un mot qui a servi à agglomérer ça et à lui donner quelque part une image de la menace particulière.
Dernière question, Fabrice Dume, ou remarque. En fait, on s'aperçoit que nombre de ceux qui ont participé à ce travail d'émergence de ce mot comme opérateur sont des gens qui ont une trajectoire politique qui vient de la gauche et qui va vers la droite. Là, on a un signe, c'est davantage ce type de profil que des gens de droite qui auraient fait ce travail intellectuel. Je citais tout à l'heure les noms de Taguieff, de Tribala, par exemple.
Il y a aussi des gens de droite qui ont été très très actifs. Hein. Si on prend les chroniqueurs du Figaro, par exemple, ils se distinguent par une production vraiment répétée, très abondante, à marteler finalement ce thème du communautarisme comme une menace. On voit du coup une espèce d'alignement sur les thèses d'un certain nombre de chroniqueurs du Figaro. Quelque part, c'est ça qu'on peut lire dans cette histoire.
Merci beaucoup Fabrice Dume. Sans-Denis, je rappelle le titre de votre livre, Communautarisme, enquête sur une chimère du nationalisme français. Il paraît aux édition Démopolis. Vous pouvez trouver les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées. Vous pouvez également réécouter l'émission autant de fois que vous voulez, ad vitam aeternam. Vous pouvez également vous abonner au podcast de la suite dans les idées sur cette même page. Je vous signale par ailleurs que les informations concernant les programmes de l'émission et les références, vous pouvez les trouver sur la page Facebook de la suite dans les idées. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Catherine Donnet, à la technique aujourd'hui Olivier Dupré, à la réalisation Jean-Christophe Francis. C'est la conversation scientifique d'Étienne Klein que vous allez retrouver dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.